VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous en direct de Washington pour cette édition de 19h30 temps universel. Bonsoir, voici les titres. Inondation mortelle en République démocratique du Congo. Au moins 37 personnes sont mortes dans des inondations à Kinshasa, la capitale. La tentative de coup d'État annoncée par la Guinée équatoriale constitue une menace à la sécurité sous-régionale, selon le chef de la diplomatie tchadienne. Un billet d'avion, la prison ou l'expulsion vers le Rwanda ou l'Ouganda, c'est le sort réservé aux migrants africains en Israël, mais l'Ouganda dément formellement tout accord. Dans l'actualité aussi, l'Iran où les manifestations pro-régime se poursuivent à Téhéran. Dans la partie magazine, on nous en dit plus sur ce livre explosif qui secoue la Maison Blanche. À venir également vos pages habituelles économiques et sportives, mais tout d'abord le journal. En République démocratique du Congo, au moins 37 personnes sont mortes dans des inondations à Kinshasa dues à de fortes pluies dans la nuit de mercredi à jeudi. Des chiffres provisoires selon les autorités locales. Des précisions avec notre correspondant Thierry Kambundi.
Nous avons enregistré 37 morts jusqu'à présent. Toutes ces personnes ont été victimes soit d'éboulements de terre, soit d'écroulement des murs de leur maison. Mais les recherches se poursuivent et ce bilan reste provisoire, a dit à Top Congo FM Dominique Ouéloli, le ministre provincial de la Santé et des Affaires sociales de la ville de Kinshasa. Ces morts ont été enregistrées à Selembao, à Ngaliema, à Bandalungwa où 5 enfants d'une même famille ont péri, à Barumbu ou encore à Limete où un officier de la police a perdu la vie avec sa femme et son enfant de 7 ans. La pluie de cette nuit a également causé d'importants dégâts matériels à Kinshasa. Des maisons inondées, des routes cassées. On a également noté l'inondation du poste haute tension de la SNEL, Société Nationale d'Électricité, dans le district de la Funa, qui a contraint cette entreprise de l'État à interrompre la fourniture de l'électricité pour limiter les dégâts. Conséquence, près de 10 communes de Kinshasa sont momentanément privées d'électricité. Ces inondations relancent le débat sur l'urbanisation de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, alors que la météo annonce encore d'autres pluies en ce mois de janvier. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et nous restons en RDC où un regain de tension a été enregistré ces derniers jours dans le Kasaï, région du centre du pays. Aujourd'hui, un policier a tué d'un coup de feu un homme à vélo qu'il aurait pris pour un milicien à Kananga, l'une des grandes villes de la région. À Kananga toujours, un militaire se serait tué après avoir tiré sur une fille de 12 ans. C'est ce qu'indique une source hospitalière. Au moins 14 personnes ont été tuées, 180 blessées aujourd'hui en Afrique du Sud lors d'une collision entre un train et un camion dans le centre du pays, selon un bilan provisoire. Des témoins rapportent que le train a déraillé et a pris feu après avoir percuté un camion à Kronstadt, à 200 km au sud-ouest de Johannesburg. En Guinée équatoriale, la tentative de coup d'État que Malago a affirmé avoir déjoué est une menace sérieuse pour toute la sous-région. C'est ce qu'estime le chef de la diplomatie tchadienne de passage à Malabo. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamat Zen Chérif, a affirmé que cette tentative de coup d'État est une menace sérieuse de déstabilisation qui concerne toute l'Afrique centrale. De son côté, le Gabon dit avoir pris des mesures de sécurité à ses frontières en coordination avec le Cameroun et la Guinée équatoriale. Selon la télévision d'État équato-guinéenne, hier, des affrontements ont opposé les forces de sécurité à ce qu'elle a qualifié de mercenaires près des frontières avec le Cameroun et le Gabon. Le ministre de la Sécurité Nicolas Obama Nchama, lui, a parlé d'un groupe de mercenaires tchadiens, soudanais et centrafricains. Des sources au Cameroun ont annoncé l'arrestation par la police camerounaise d'une trentaine d'hommes armés le 27 décembre à la frontière avec la Guinée équatoriale. Un ex-général de l'armée tchadienne, Mahamat Kodo Bani, a aussi été arrêté à Douala. Il en est de même pour l'ambassadeur de la Guinée équatoriale au Tchad, Henrique Nsoué Aguessom, arrêté à Ebibéine, ville frontalière. frontalière avec le Cameroun, d'après un de ses cousins, qui avance qu'il y était en villégiature. Malabo affirme que le coup d'État a été orchestré par des militants de certains partis d'opposition radicale, avec le soutien de certaines puissances étrangères. Le principal parti d'opposition, Citoyen pour l'innovation, rejette cette accusation et dénonce des dizaines d'arrestations de ses militants.
Et une soixantaine de commerçants tchadiens ont été interpellés ces derniers jours en Guinée équatoriale après l'annonce par le gouvernement d'un coup d'État déjoué. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP l'ambassadeur du Tchad dans le pays. Dans l'actualité encore, appel au dialogue national du président togolais. C'était la première fois que Faure Gnassingbé s'adressait directement aux Togolais depuis le début de la crise en septembre. En présentant ses vœux, il a réitéré sa volonté de dialoguer avec l'opposition pour mettre fin à la crise politique et sociale qui agite le pays depuis septembre. Nous y reviendrons dans la partie magazine. L'Ouganda n'a pas conclu un accord avec Israël pour accueillir sur son sol des migrants venus illégalement en Israël. Ce démenti intervient au moment où Tel Aviv entend expulser près de 40 000 migrants africains. Abdourahmane Dia.
Le ministre ougandais des Affaires étrangères a indiqué que l'Ouganda est perturbé par ces informations. Selon Henri Okello Oryem, le gouvernement israélien doit être en position d'expliquer cette affirmation parce qu'aucun accord de ce genre n'existe entre l'Ouganda et Israël concernant le transfert d'immigrants africains d'Israël. Ces informations doivent être considérées comme fausses, a-t-il insisté. Israël a lancé hier un programme destiné à imposer à 38 000 migrants africains en situation irrégulière de choisir entre quitter le pays d'ici fin mars ou être emprisonnés pour une durée indéterminée. Ils sont en majorité des Érythréens et des Soudanais. Le gouvernement israélien reconnaît qu'il est trop dangereux pour eux de retourner chez eux, mais n'a pas dit dans quel pays tiers ils pourraient être envoyés. Des ONG israéliennes soutenant les migrants ont cependant affirmé que des accords avaient été signés avec le Rwanda et l'Ouganda pour accueillir les migrants volontaires. Un membre d'une ONG israélienne a lui affirmé que malgré les démentis répétés de Kampala par le passé, on voit que des milliers de migrants arrivent là-bas, donc on ne sait pas à quel point on peut prendre au sérieux les démentis de l'Ouganda.
Et la justice zimbabwéenne a annulé les poursuites contre une journaliste américaine accusée d'avoir insulté l'ancien président Robert Mugabe sur Twitter. La jeune femme qui travaille pour la chaîne de télévision privée zimbabwéenne Magamba TV était accusée, selon le procureur, d'avoir publié un message sur Twitter en affirmant « Nous sommes dirigés par un homme égoïste et malade ». Le tweet était accompagné d'une illustration représentant Robert Mugabe, 93 ans, sous perfusion. Le Premier ministre somalien Hassan Ali Kerr a limogé jeudi les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et du Commerce après des semaines de tensions entre le gouvernement et plusieurs leaders de clans. Il a nommé des remplaçants pour les trois postes vacants.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et à la une, à l'international, attentat en Afghanistan. Un kamikaze a déclenché une bombe ce jeudi à proximité de policiers et de manifestants à Kaboul, faisant au moins 11 morts, 25 blessés. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, s'est produit en marge d'une manifestation organisée après la mort d'un commerçant lors d'une opération de police visant des trafiquants d'alcool et de drogue. D'après le porte-parole de la police de Kaboul, le kamikaze s'est explosé très près d'un groupe de policiers en tuant au moins 5 et en blessant 11 autres. Et en Iran, de nouveaux rassemblements pro-régime ont été organisés aujourd'hui au lendemain de l'annonce par Téhéran de la fin de la contestation. Des précisions avec Claire Morin-Gibour.
La télévision d'État a diffusé des images de manifestations de soutien au pouvoir dans plusieurs villes du nord et du centre du pays. Sur ces vidéos, des manifestants scandent « Nous sommes tous ensemble derrière le guide », c'est-à-dire l'ayatollah Ali Khamenei, le numéro 1 de la République islamique d'Iran. Ces rassemblements pro-régime répondent aux protestations contre la vie chère et le pouvoir qui ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays depuis le 28 décembre. Ce mouvement de contestation sans précédent depuis 2009 a fait 21 morts et a entraîné des centaines d'arrestations. Les autorités ont accusé les groupes contre-révolutionnaires et les moudjahidines du peuple d'avoir profité des manifestations légitimes de la population pour créer des troubles. Téhéran a également accusé les États-Unis et l'Arabie saoudite, sa grande rivale régionale, d'avoir attisé les troubles.
En Syrie, deux militaires russes ont été tués dans une attaque au mortier à la veille du Nouvel An. C'est ce qu'a annoncé jeudi le ministère russe de la Défense au lendemain de l'annonce de la mort de deux pilotes fin décembre. Il s'agit de premiers soldats tués depuis l'annonce mi-décembre par le président russe Vladimir Poutine d'un retrait partiel des troupes russes déployées en Syrie en soutien du régime de Bachar al-Assad, dont Moscou est un fidèle allié. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Arzuma Compaoré.
En Guinée, le gouvernement vient d'approuver un investissement de la société chinoise TBEA Group de 2,89 milliards dans le domaine de la bauxite et de l'alumine. Le FMI considère que les investissements dans la bauxite et l'alumine pourraient atteindre 6,5 milliards sur la période 2017-2020 dans un contexte de hausse de la demande mondiale d'environ 5% par an à moyen terme. Mais le secteur minier guinéen est très peu intensif en travail. Il contribue à 13% du PIB guinéen, mais ne représente que 3% de l'emploi total. Nouveau défi pour Rwandair après le limogeage de son principal responsable. Sur instruction du président Paul Kagame, la compagnie aérienne nationale rwandaise a depuis avril 2017 une nouvelle personne à sa tête. Chance Ndagano a désormais la lourde tâche de décollage de Rwandair. Cet ancien pilote, diplômé en aéronautique, a une mission cruciale pour le pays des mille collines qui souhaite devenir un hub régional. Pour y parvenir, Chance Ndagano devra concilier les ambitions de la compagnie en matière de liaison intercontinentale avec la situation financière dégradée en raison d'un fort endettement. L'Angola prévoit de faire flotter librement sa monnaie. José de Lima Moussano, gouverneur de la Banque centrale, a annoncé mercredi le projet de faire flotter le Kwanza. Arrimé actuellement au dollar au cours de 166 pour un billet vert, le Kwanza se négociait mercredi à plus de 400 par dollar sur le marché noir.
Et pour la page sport, Nicolas Pino, bonsoir.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Tout d'abord, Salah, le favori pour le ballon d'or africain.
Eh oui, l'Égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, fait figure de favori pour ce ballon d'or africain 2017 qui sera décerné tout à l'heure à Accra. Sur le podium également, le Sénégalais Sadio Mané, son partenaire à Liverpool, et le Gabonais de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. On rappelle qu'actuellement, Mohamed Salah est le deuxième meilleur buteur de la Première Ligue anglaise avec 17 buts. Il a également qualifié, c'est historique, l'Égypte pour la Coupe du Monde 2018. Les pharaons d'Égypte qui n'avaient pas participé à une Coupe du Monde depuis 28 ans.
Bientôt un nouveau sélectionneur pour le Bénin.
La Fédération béninoise vient de proposer trois noms au ministère des Sports. Alain Giresse, Michel Dussuyer et Pierre-André Schurman. L'ancien milieu de l'équipe de France, Alain Giresse, est libre depuis sa démission du poste de sélectionneur du Mali. Libre aussi Michel Dussuyer après son expérience décevante à la tête de la Côte d'Ivoire. On rappelle que le Bénin n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde en Russie. Le Bénin qui sera opposé lors des éliminatoires de la CAN 2019 à l'Algérie, au Togo et à la Gambie.
L'actualité sportive, c'est encore le président de la Fédération ivoirienne de football sur la sellette.
Et oui, la Fédération ivoirienne de football est en pleine turbulence. Des clubs et plusieurs groupements d'intérêt veulent une assemblée générale extraordinaire pour demander le départ du président de la Fédération ivoirienne de football. C'est la fédération qui a affirmé que 38 des 76 clubs de première, deuxième et troisième division ont demandé cette assemblée générale.
Et enfin, du côté de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Battu lors du match d'ouverture de la saison, Boston a pris sa revanche hier soir et dominé Cleveland 102 à 88 dans le choc de la conférence Est. Ailleurs, DeMar DeRozan a marqué 35 points pour mener Toronto à un succès à Chicago 124 à 115. Tandis que la star grecque Giannis Antetokounmpo, c'est pas facile à prononcer, a marqué 31 points et 10 rebonds lors de la large victoire de Milwaukee contre Indiana, 122-101. Et puis les champions en titre, Golden State, qui compte désormais 30 victoires pour 8 défaites. C'est le meilleur bilan de la NBA grâce à la nouvelle victoire des Warriors sur le fil à Dallas, 125-122.
Merci Nicolas Pineau pour cette page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Au Togo, le président fort Gnassingbé a réitéré hier, en présentant ses vœux, sa volonté de dialoguer avec l'opposition pour mettre fin à la crise qui agite son pays. C'est la première fois que fort Gnassingbé s'adresse directement aux Togolais depuis le début de la crise en septembre. Et après des mois de contestation populaire pour demander sa démission, menée par 14 partis d'opposition, le Parlement souhaite soumettre au peuple un projet de révision de la Constitution qui prévoit une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Toutefois, cette réforme n'est pas rétroactive, ce qui suscite la colère de l'opposition. Cet appel au dialogue va-t-il être entendu? Yacouba Ouédraogo a joint à Lomé le professeur Magloire Kouakouvi, enseignant de philosophie et analyste politique.
Je pense qu'il sera entendu parce que avant son appel, le chef de l'opposition lui avait écrit pour qu'il se rencontre et discute, mais il n'avait pas reçu de réponse. Maintenant, étant donné le nombre de ceux qui appellent au dialogue, la CDAO et l'Union africaine, je pense que ça va marcher.
Justement, qu'en est-il de la médiation sous-régionale et régionale menée par les présidents ghanéens oui. Nana Akufo-Addo et Guinée Alpha Condé qui ont été rejoints par ceux Burkinabé Roc et béninois Patrice Talon?
Nous entendons dire que l'État dit qu'il est souverain et qu'il n'a pas besoin de médiateur. Mais l'opposition exige un médiateur parce que quand on dialogue entre Togolais seuls, on met les recommandations dans un tiroir et puis la vie continue.
Le président Gnassingbé a souligné que les auteurs et les responsables d'actes de violence, de destruction et de meurtre doivent être soumis à la rigueur de la loi. L'opposition, elle, exige oui. des mesures d'apaisement dont la libération de manifestants est toujours détenue. Ces préalables empêchent tout de même le dialogue.
C'est plutôt la libération des gens arrêtés qui empêche le dialogue. Parce que pour ce qui est de la rigueur de la loi, c'est la énième fois que nous entendons cela, mais nous n'avons jamais entendu dire qu'on a condamné qui que ce soit parmi les forces habillées. L'impunité a fait que la population ne croit pas à ce genre de promesses.
Foy Asimbe a annoncé aussi un référendum pour l'adoption du projet de révision de la Constitution qui prévoit, entre autres, une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, une limitation qui n'est pas rétroactive, ce que rejette l'opposition. Le pouvoir n'a pas fléchi.
J'avais fait également une proposition qui dit qu'on ne peut pas aller à un référendum avec 4 articles. Ils avaient rejeté les 47 amendements de l'opposition. Eux-mêmes ont modifié 42 articles en 2002 et maintenant ils disent qu'il faut aller au référendum juste avec les 4 articles que eux ils ont proposé, ce qui n'est pas bon sur le plan rationnel.
Est-ce que vous êtes optimiste que le pouvoir et l'opposition puissent s'asseoir autour de la même table et discuter concrètement de tous ces sujets-là?
Ça sera la 28e fois qu'ils vont le faire. C'est pour ça que l'évocation du médiateur est intéressante, parce que ce n'est jamais suivi de comité de suivi. Et ils s'asseyent, ils décident, on proclame et puis tout le monde retourne à ses occupations. Nous osons espérer que cette fois-ci, il y aura un comité de suivi. Sinon, en tant que Togolais, nous sommes habitués à faire dialogue sans lendemain. Mais nous sommes optimistes quand même.
C'était le professeur Magloire Kouakouvi, joint à Lomé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Tchad, un véritable bras de fer se prépare entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Un projet de rabattement des salaires des fonctionnaires civils et des militaires tchadiens est en cours. Réaction des différents responsables des syndicats des travailleurs du Tchad dans le reportage d'André Komadjingar.
S'il y a un sujet qui fait l'unanimité dans les quartiers généraux des différentes centrales syndicales en ce début d'année, c'est bien évidemment ce projet de rabattement de salaire, lequel projet est en étude sur la table du nouveau ministre des Finances Abdoulaye Sabre Fadoul, considéré comme l'initiateur de 16 mesures d'austérité par les travailleurs. Le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad et membre de la plateforme syndicale revendicative Gounou Vaima Ganfare explique comment l'État entend couper les salaires des fonctionnaires.
Ils ont commencé par le SMIC, où ils prennent 5%, de 60 à 100 000, 15%, de 100 à 200 à 20%, de 200 à 300 à 25%, de 300 à 400 à 30%, de 400 à 500 à 35%, de 500 à 1 million 40% et supérieur à 1 million 45%. Pour le personnel diplomatique, inférieur à 500 000, 5%, égal ou supérieur à 500 000, 10%. Et pour le personnel de force de défense et de sécurité, inférieur ou égal à 100 000, 5% et supérieur à 100 000, 10%.
Pour le président du comité technique chargé du dialogue social Ali Abbas Cheiti, c'est pour répondre aux exigences des partenaires financiers, notamment le FMI, que l'État envisage faire cet abattement. Le secrétaire général du syndicat national des agents des finances du Tchad, Ngaudom Mouiba, met en garde le gouvernement de ces agissements.
Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les droits d'assises de 18% de téléphonie mobile et compagnie? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les ressources locales quand les partenaires en développement nous ont pris en charge sur le plan salarial? Un gouvernement responsable qui transforme la mendicité en système de gouvernement, ça ne marche pas. Nous allons gérer la rue.
Le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SINES n'entend pas avaler ses couleuvres. Mahamat Nour Ahmad Roufaï est le secrétaire général du SINES.
Nous avons rejeté en bloc ces projets fallacieux. Nous avons notre stratégie de barrer la route à ce projet-là, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive.
Le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, Ibrahim Ben Seït, accusé par ses camarades syndicalistes de faire le jeu du pouvoir dans ce genre de lutte, sort de son silence.
Aujourd'hui, le gouvernement paye des gens non fonctionnaires, décrété plus de 10 000 personnes. Nous sommes catégoriques et nous ne voulons pas qu'on touche nos salaires. C'est une autre forme d'esclavage. Les salaires, là, c'est sacré.
Si les deux parties, gouvernement et partenaires sociaux, ne mettent pas de l'eau dans leur vin, l'année 2018 risque d'être mouvementée sur tous les plans. André Kodmadingar Ndjamena pour VOA.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Et on poursuit avec ce dossier qui secoue la Maison Blanche. Donald Trump a rompu avec Steve Bannon, un collaborateur clé de la campagne électorale 2016. Ce commentaire fait suite à la diffusion d'extraits d'un livre dans lequel il est cité, affirmant notamment que le fils de Trump a commis une trahison en rencontrant une avocate russe. Pour une analyse sur cette nouvelle fracture politique entre le président américain et un membre influent de son entourage, Nathalie Barge a joint Jean-François Seznec, professeur de sciences politiques à l'université Georgetown.
Il est certain que Donald Trump doit être très, très fâché, mais je pense que ce qui est très symptomatique ici, c'est qu'il y a la cassure entre Bannon et Trump qui est très importante. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est de savoir pourquoi Bannon a pris cette position tout d'un coup. Et ça, je pense que c'est ça qui signifie beaucoup de choses. Ce n'est pas un bon signe pour la présidence de Trump.
Quelle nouvelle ligne de fracture, finalement, cela révèle-t-il, en fait, cette cassure entre Donald Trump et Steve Bannon?
Trump perd sa base, et perdant sa base de droite, son extrême droite, et il a déjà bien sûr perdu son extrême gauche, alors c'est pas un très bon signe, mais Steve Bannon, en fait, prépare l'ère post-Trump. Il est très aimé par peut-être 20% de la population qui écoute ses nouvelles sur Paid Park News, qui croit ce qu'il dit tout le temps. Et maintenant, lui, Bannon, a perdu beaucoup de crédibilité vis-à-vis de cette base, parce que Trump ne suit pas forcément les politiques que Bannon voudrait qu'il suive. Bannon, en plus, a dû comprendre et décider que Trump lui-même, maintenant, en fait, ne sera peut-être plus au pouvoir pendant très, très, très longtemps. Et donc, il est en train de préparer l'ère après Trump.
Quel genre d'autres questions cela peut-il soulever à l'approche des primaires républicaines en vue des élections de mi-mandat, notamment cassure avec d'autres personnes éventuellement? Et selon vous, est-ce que vraiment on peut parler d'attaque sciemment calculée justement par rapport à ces élections?
Ah oui, certainement. Oui, certainement. Je pense que Bannon est en train de mettre ses candidats en place. Même si c'est des candidats purs et durs, ça ferait sans doute perdre le contrôle de l'Assemblée nationale. Les Républicains perdront sans doute ce contrôle parce que leurs candidats purs et durs ne plairont pas à la majorité d'abord des démocrates et à une grande partie des Républicains. Donc ils perdront une grande partie des sièges qu'ils ont, mais ils auront un noyau pur et dur à l'Assemblée qui préparera le futur, si vous voulez. Donc je pense que Bannon a décidé qu'ils avaient perdu une grande partie de leur crédibilité maintenant à cause de Trump, et que Trump va avoir des gros problèmes, soit directement, soit son fils, avec le procureur de la République. Donc il se prépare à avoir plusieurs années en minorité, en fait.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Le monde d'aujourd'hui, à la mise en onde Sims Noumami, à la console Nashua Color, à la présentation Raissa Girondin. On reste connecté sur Facebook et également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Excellente suite de programme.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le peuple iranien agit enfin contre le régime iranien brutal et corrompu, a déclaré le président Donald Trump dans un tweet posté le 2 janvier. Se référant aux manifestations pacifiques qui ont débuté le 28 décembre dans la ville de Mashhad, le président Trump a noté que les gens ont peu de nourriture face à une forte inflation et n'ont pas de droits fondamentaux. Plus de 20 personnes auraient été tuées et des centaines arrêtées lorsque les manifestations se sont étendues aux autres villes iraniennes. La porte-parole du département d'État américain, Heather Nauert, a déclaré que les États-Unis suivaient des informations faisant état de multiples manifestations pacifiques des citoyens iraniens à travers le pays. Les dirigeants iraniens ont transformé un pays riche, avec une histoire et une culture riche, en un État voyou économiquement épuisé, dont les principales exportations sont la violence, l'effusion de sang et le chaos. Comme l'a dit le président Trump, les victimes de longue date des dirigeants iraniens, c'est le peuple iranien, a noté Mme Nauert. Les États-Unis condamnent fermement l'arrestation des manifestants pacifiques. Nous exhortons toutes les nations à soutenir publiquement le peuple iranien et ses revendications pour les droits fondamentaux et la fin de la corruption. Le porte-parole du département d'État a fait savoir que le secrétaire d'État Rex Tillerson réitère son soutien profond au peuple iranien.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.